Vous écoutez
RMC. RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Thomas Desson.
On est ensemble jusqu'à minuit, évidemment. Vous connaissez la chanson. On a mal à notre Gilbert parce qu'effectivement, les 22 et 29 août prochains, a priori, le Racing va tomber contre l'Eintracht Francfort pour ses playoffs d'Europa League.
On va les laisser se qualifier là-bas.
Plovdiv.
Laisse-les se qualifier. On en a vu d'autres avec les clubs français en plein été. On en a vu d'autres. Laisse-les se qualifier tranquillement.
Il a raison. Il est heureux. Il m'a confié que retrouver ses vieilles branches, Fred Hermel, Paulo Breitner ou Julien Laurence, il en était vraiment content. Un casting de rêve avec nos ambassadeurs ce soir. Bonsoir, Daniel.
Salut, les amis.
Un sacré programme. Paris est-il en train de réussir un des meilleurs mercato depuis quand? Bah, depuis la première mouture, la première édition de Leonardo. La course à la deuxième place. C'est quoi le projet à Monaco? Podium ou pas podium? Vos amis, les gars, on en a besoin. Kita, père et fils, ce fameux FC Kita. Qui va vouloir bosser avec les Kita? À la ligne entraîneur, jusqu'à il y a une heure, on lisait aucun. Patrick Collot sera l'intérimaire. Le mercato avec Oussem Loussaïef. Et notre deuxième heure, on en parlait. Buenas tardes avec Fred Hermel. Guten Abend avec Paulo Breitner. Good evening avec Julien Laurence. On est à 4 jours du début de la Première Ligue avec Liverpool. Norwich. On démarre avec ce Paris Saint-Germain, messieurs. L'an dernier à Shenzhen, il y avait un 4-0, un 4-Z contre les adolescents monégasques. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Là, ce 2-1 plus contre une équipe qui a été plus accrocheuse et qui sera un candidat accrocheur Rennes, nous laisse entendre qu'il y a un petit peu plus de garantie début août, Daniel, avec ce Paris Saint-Germain.
Moi, je pense que les garanties avec le PSG, il faut s'en méfier comme de la peste. Et malheureusement, on est habitué à tellement de déceptions que tout ce qui ressemble à une garantie doit faire peur. Enfin, faire peur. Donc, en tout cas, être pris vraiment avec des pincettes. Oui, mais enfin, combien de fois l'été, on a cru que la formule était trouvée, que il suffit de penser à l'année dernière quand tu prends Buffon parce que dans le vestiaire, ça va calmer un ou deux joueurs, parce que tu prends un tel, et que dire du mercato clinquant d'il y a deux ans quand tu te retrouves avec deux joueurs du calibre de Neymar et Mbappé. Et en fait, chaque année, allez, il y a peut-être que la première année d'Emery où le PSG était handicapé au niveau du fair play financier et qu'ils n'ont pas pu faire un vrai recrutement, c'est peut-être la seule année où il n'y a pas eu un enthousiasme démesuré, où on n'a pas cherché à savoir si le mercato était bon, si ça allait apporter quelque chose et qui allait apporter quelque chose et comment. Là, le seul truc qui diffère, c'est la nature de ce mercato. La nature est un peu différente parce que t'as pas de nom clinquant, t'as pas de star. On a l'impression que ça, c'est fait, ça a été fait, et que là, on a cherché à apporter autre chose dans le vestiaire. C'est de ça dont aujourd'hui, on peut débattre, en fait, réellement.
Ludo, le premier cru de Leonardo, filière italienne, c'est le plus italien des Brésiliens. Là, on voit Sarabia, Herrera, Diallo, Gay, Marcin Bulka, le gardien polonais. Est-ce qu'on a des soldats? Pas des noms grandiloquents, mais qui sont là pour rendre de bons et loyaux services.
Bon, on l'a dit, Daniel le dit, on est jamais sûr de rien avec le Paris Saint-Germain. Ces recrues, moi, le mercato est fait de manière plutôt, c'est plutôt intelligent de la part du PSG, dans le sens où tu avais besoin, par rapport à l'insatisfaction que tu avais par rapport à tes jeunes. Thomas Tuchel a essayé à maintes reprises de faire jouer les jeunes du PSG. Ça a pas fonctionné, en tout cas pas comme il le voulait. Donc du coup, les jeunes, on les a transférés et on avait besoin d'une profondeur de banc.
Ça, c'est donc, une vraie. Voilà. Ça, t'as raison.
Donc l'intelligence qu'ils aient commencé.
C'est une vraie nouveauté. Voilà. Quand même, à ce point, faire table rase, on a l'impression on dégage tout le monde. Ce qui est quand même assez étonnant.
Mais ce qui va dans le sens de...
Mais juste selon moi, c'est une bonne idée pour
ce
moi.
Ce qui va dans le sens de l'arrêt aussi de l'équipe réserve.
Ouais.
Donc du coup, c'était soit t'arrives en moins de 19 et t'es un joueur qui peut immédiatement prétendre à intégrer l'équipe professionnelle, soit ben, tu perds pas de temps parce que ça coûte de l'argent de garder ce type de joueur et ils peuvent pas progresser.
Et surtout, tu peux les vendre. Les ventes ont été plutôt bien faites de ce côté-là.
15 millions, d'accord. Après, tu es aussi... la situation est vampirisée par le cas Neymar. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire ça dans un premier temps, c'est-à-dire de renforcer ton banc. et puis après d'attendre de voir, parce que la vie avec Neymar ou la vie sans Neymar, c'est pas du tout la même chose. Si tu récupères entre 200 et 250 millions de la vente de Neymar, peut-être, ou peut-être que tu peux faire des deals. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui quelqu'un puisse poser comme ça 250 millions sur la table, mais dans ce cas-là, ton mercato, il est radicalement différent.
Sauf et tu que vas plus peut-être... le temps passe, si tu récupères ce blé, ce sera difficile à réinvestir parce que tu n'auras pas de bons joueurs sur le marché à aller chercher dans la deuxième quinzaine du mois d'août.
Un peu moins.
À moins que tu acceptes effectivement les fameux deals dont on nous parle depuis le mois de juin, Neymar contre un peu d'argent et un ou deux joueurs du club dans lequel il va, et en l'occurrence le Barça. Mais on est quand même d'accord que plus le temps passe, moins on a le sentiment que Neymar va quitter le PSG. Le Barça a démarré, il a fait son fameux trophée Gamper comme tous les ans, ils sont partis en tournée. Alors on sait que ça peut arriver jusqu'au dernier moment, les gros transferts, mais
dans ce cas-là, ça, je pointe toujours les mêmes lacunes. C'est-à-dire que ton gardien de but est toujours un vrai handicap. Ça a encore été le cas sur le trophée des champions, où à mon avis, ni l'un ni l'autre ne sont
déjà
en mesure
contre l'Inter quelques
ne
jours
sont
avant.
En mesure de s'imposer à Paris. Donc déjà ne pas te renforcer, on connaît l'importance du gardien de but, notamment dans les grandes compétitions. Donc ça pour moi c'est un vrai handicap. Toujours les latéraux. Et puis au milieu de terrain, j'ai pas eu.
On a des avis messieurs au 32-16.
Honnêtement, pour moi, le problème majeur était surtout au milieu. Et là,
tu te renforces pas au milieu.
Au milieu, quand même, t'as vu le nombre de joueurs que t'as pris. Si tu t'es pas renforcé au milieu, l'année dernière, déjà, t'étais face à un problème, un gros problème.
Tu trouves que Gay, c'est lui qui va te faire passer le cap
aujourd'hui sur les possibilités que tu avais sur le marché. Prendre Herrera.
Je parle pas d'Herrera parce que c'est fait depuis un moment. Hein. Je parle Herrera, c'est bon coup.
Non mais il y avait un
bon
problème,
coup.
C'est que déjà tu n'avais pas de joueurs. C'était en réel déficit de joueurs. Il y a eu des matchs où le PSG ne savait même pas qui alignait au milieu. Là, tu te retrouves avec quand même possibilité donc Herrera, Gay, Verratti, Marquinhos qui déjà l'année dernière avait dépanné au milieu mais qui pourrait éventuellement le refaire. Là, si tu peux pas considérer que tu peux
Il y a un autre caractère
PSG,
également,
renforcé.
Daniel.
Renforcer quantitativement.
Qualité, puisqu'il n'y avait rien.
L'année
dernière, encore une fois. L'année dernière, encore une fois. Moi, je veux bien qu'il pouvait manquer en qualité à certains postes. Mais si le PSG se plante depuis des années, moi, franchement, je ne pense pas que ce soit principalement dû à la qualité intrinsèque des joueurs. C'est principalement dû à autre chose. Quand tu perds la façon dont tu as perdu contre Manchester cette année, l'autre Manchester il y a deux ans, le fameux match contre le Barça, c'est pas avec la qualité de tes mecs. La qualité de tes mecs t'a permis de faire à chaque fois des matchs aller qui devaient te permettre de te qualifier. Si tu t'écroules, c'est pas parce qu'il t'a manqué un 6, non, il t'a manqué autre chose. Il t'a manqué du caractère dans cette équipe. Et là, est-ce que avec ces joueurs-là, il peut se passer quelque chose? Est-ce que le retour de Leonardo peut remettre beaucoup de discipline, beaucoup de valeur travail dans le groupe? Moi, je pense que c'est là qu'il va falloir voir s'il y a une différence. C'est pas tant de savoir si Herrera est un vrai gros coup ou si Gay va apporter. Moi, je considère que c'est plutôt un bon joueur. Après, est-ce qu'il y avait d'autres choix en 6 sur le marché? Il n'y avait pas énormément de joueurs dispo. Franchement,
la progression, messieurs aussi, la progression avec Paris, c'est que au cœur de l'hiver, le joueur qui est à 30 millions, inflation avec Paris, on a failli le prendre à 50 millions, il a finalement été acheté à 32 millions. On parle du cas Gay. Donc déjà, on s'est calmé là-dessus, mais l'énième claque a fait peut-être qu'il y a eu du calme, de la raison en tout cas. Tu nous dis, Ludo, attention, c'est aussi peut-être à cause de l'enveloppe Neymar qui est figée, donc c'est pas entériné. On a des avis divergents au 32-16. Arthur, dans un premier temps. Salut Arthur, toi tu nous dis, mercato intelligent, c'est le premier vraiment intelligent depuis janvier 2012.
Bonsoir Laster, bonsoir Thomas, bonsoir Daniel, bonsoir Ludo.
Salut.
Alors oui, moi je suis d'accord que le mercato est plutôt bien géré pour l'instant. Il y a eu des choix assez intelligents, uniquement intelligents même, et vraiment ce qu'on attendait en plus. On avait besoin de renforts au milieu de terrain, parce que l'effectif du milieu de terrain l'année dernière était quand même assez improbable, avec deux réels milieux de terrain qui étaient Verratti et Paredes. Et encore Paredes, on l'a pris dans des conditions un peu particulières. Là, il y a eu les renforts attendus, donc on a pris Sarabia, Gay et Herrera pour fournir le milieu de terrain. Sarabia, pour moi, c'est vraiment la trouvaille excellente parce que c'est le genre de joueur qui va pas faire, qui a pas l'air de vouloir faire l'histoire et qui peut s'adapter à différents postes et qui est un joueur qui est également très agréable à regarder. Donc là-dessus, je suis plutôt satisfait.
Le côté, tu veux dire, et moi je suis assez d'accord avec ça, si tu penses la même chose, le côté espagnol dans le vestiaire va faire du bien, parce qu'il se trouve que, et c'est quelque chose qu'on peut constater, d'un point de vue du professionnalisme, ce sont souvent des joueurs exemplaires.
C'est vrai, et puis je l'avais abordé quand j'étais passé dans l'after, il y a un mois, ce côté espagnol, ce nouveau côté espagnol du PSG avec Herrera, Sarabia, et maintenant Bernat, bon, et puis Ressé, mais bon, si on s'en fout un petit peu.
Ouais. Un peu plus qu'un petit peu même, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Pardon?
Un peu plus qu'un petit peu même.
Oui, énormément même. Il a joué quelques matchs de pré-saison.
Sarabia, la garantie, Arthur, c'est qu'effectivement, c'est une dizaine de buts par saison. Même quand il est pas très bon, il reste là.
Si Neymar reste, tu sais même pas s'il part pour être titulaire. Mais t'as quand même, déjà, c'est un bon joueur de foot. Bonne mentalité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pareil pour Herrera, bon joueur de foot qui peut jouer à différents postes au milieu de terrain. Franchement, son interview aujourd'hui, ça fait plaisir de lire des choses comme ça.
On est en train
un petit peu de comprendre quel genre de mec il faut. Pas star, le mec va bosser. Et pour en revenir, Ludo, tu vas être obligé d'être d'accord avec moi, mais cette histoire de milieu et de qualité de mec et tout, combien t'as de mecs aujourd'hui à Liverpool que tu aurais pu considérer un jour champion d'Europe? Dans leur milieu de terrain, notamment.
Ouais, je sais pas.
Les mineurs, Anderson, Wijnaldum, c'était pas des mecs que t'envisageais au top niveau mondial un jour. Donc, il y a aussi autre chose. La Ligue des Champions nous montre quand même chaque année qu'il y a aussi autre chose pour faire une grande équipe. Ce autre chose, c'est ce qui est le plus difficile à définir. C'est ce qui manque au PSG depuis des années.
Dans ce que tu parles, bien sûr, il y a autre chose, mais il y a aussi l'homogénéité en fonction de ce que veut construire ton entraîneur.
Tu vois, si
on me dit que le Paris Saint-Germain va jouer à deux milieux de terrain. Je te dis ok, peut-être, parce que Gaï, il peut rentrer dans ce système-là à deux. Parce
ça
qu'il
peut
a
tourner
fait
un 4-2-1 si Neymar reste. Voilà. Si Neymar reste,
après,
c'est possible.
Si tu restes sur ton 4-3-3, honnêtement, Gaï, il s'inscrit où là-dedans? C'est-à-dire que il a jamais joué sentinelle, que ça soit quand j'étais à Lille ou quand ça soit à Everton. C'est pas le type de joueur qui, lui, sachant que le PSG va avoir 80% du temps le ballon ou même 70% du temps le ballon, qui va venir entre les deux, se placer correctement pour faire les relances, pour casser les lignes. C'est pas ce type de joueur là, donc tu vois, ce dont je parle, c'est pas simplement juste une qualité de joueur comme ça intrinsèque, c'est surtout la qualité qui s'inscrit dans ce qu'a besoin Paris Saint-Germain. Et je trouve que les recrues sont pas toujours
en ce qui concerne la prise de risque en derrière Herrera, trophée des champions.
Paredes, Gay, et ben au mieux de prendre ces deux-là, j'aurais plutôt mis à l'époque là en décembre ou là 30 millions sur
Paredes, c'est une plantade
totale. Thiago
Mendes,
qui lui a la capacité à ratisser et à jouer des ballons plus au fond.
Ludo, Thiago Mendes, et Dieu sait que j'adore ce joueur et que j'en parle souvent. De là à considérer que le mec, peut-être que moi aussi dans un milieu à deux, parce que attention Thiago Mendes, dans un milieu à trois à Lyon, il n'est pas exclu que ce soit assez compliqué pour lui aussi. Il a peut-être pas le profil non plus, mais dans un milieu à deux, oui, ok, j'aime bien le joueur, mais le mec, il a pas plus de référence que Gay, hein, si tu vas par là. Il a l'air, moi il me plaît beaucoup, plus technique peut-être, mais le mec a joué à Lille une très bonne saison, il passe à Lyon, ça va être à lui de montrer maintenant des choses. Hein. Finalement, des mecs pour jouer à 3 en point de basse, franchement, je vois pas qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la tendance à... Bon, à Liverpool, t'as Fabinho, le vrai mec que Liverpool a raté il y a deux ans, mais que Monaco voulait pas vendre à Paris. Après, pour le reste, t'as beaucoup de milieux à deux maintenant. Bon, le Real et le Barça ont leurs joueurs historiques à ce poste qui vont également finir par se fatiguer un jour et que de toute façon, t'aurais pas pu sortir de leur club. Néanmoins, il y avait pas beaucoup de monde à prendre, quoi. Il y avait pas de vrai mec. Donc, à Tuchel maintenant de trouver la bonne formule. Peut-être avec Gay à ce poste-là. Peut-être à deux, dans un 4-2-3-1. C'est fort possible.
Moi j'imagine. Honnêtement, je te dis, moi, je pense que Marquinhos, vu le nombre de défenseurs centraux qu'ils ont recrutés, que Marquinhos va jouer avec Verratti, et donc tu te retrouves avec trois milieux qui vont se retrouver, enfin, avec Gay, Paredes et...
C'est-à-dire, ce problème de point de base du sentinelle ne va plus être un problème parce qu'on va avoir...
Peut-être. Et puis, n'oublie pas qu'encore une fois, la deuxième partie de saison l'année dernière, au milieu, mais est-ce que tu te souviens des mecs qui ont joué au milieu? Il y a eu des compos d'équipe qui étaient délirantes. T'avais plus de joueurs. Quand ils ont commencé à tous être blessés, on a l'impression que t'avais plus personne. Bon, bah là, il y aura au moins un effectif. L'effectif était très court. Quand ils faisaient jouer des jeunes, là, qui en plus, franchement, étaient pas au niveau. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, mais il y a un choix fort qui a été fait. À l'époque où tout le monde dans les clubs disait, ouais, je suis très content, on fait jouer nos jeunes. Mais moi, je trouve que cette réflexion est toujours très 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 exagéré là, tous ces supporters qui veulent absolument voir leur baby joueur rentrer dans le 11. Dire mais calmez-vous, on gagne pas des matchs avec les mecs du centre de formation. Il faut les faire rentrer 2-3 et encore faut-il qu'ils soient bons et quelles sont les ambitions du club pour que les mecs s'adaptent à l'équipe. Mais là le PSG, regarde Kunku, très franchement, ça fait des années que la chance elle lui a été donnée. On peut pas dire le contraire. Bon ben voilà, ça marche pas, ça colle pas, t'es pas au niveau, au revoir. Et les autres, c'était pareil. Tu sentais qu'il manquait un truc. Si en plus ça rapporte du blé au club, bon voilà. Je trouve que de ce côté-là, les choix.
Non, mais avec Herrera, on n'a pas de prise de risque. C'est vrai que ça a été 80% des passes en retrait au Trophée des Champions. L'autre Herrera, Hector, lui, on va en parler avec Fred Hermel, du côté de l'Atlético. Arthur nous disait, c'est le mercato le plus intelligent depuis janvier 2012. Guillaume est un peu de l'avis de Ludo en disant, on n'arrive toujours pas à gommer ses fameuses faiblesses aux côtés des latéraux et du gardien. N'est-ce pas, Guillaume ?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut.
C'est oui, effectivement, le fameux dossier des gardiens des latéraux. Et parce que comme Leonardo a dit que maintenant, il voulait plus contribuer que le PSG soit la vache à lait des autres clubs européens, il y avait, pour moi, au niveau gardien et latéraux, il y avait, notamment au poste de gardien, il y avait un coup à tenter et je pense aurait été pas cher, c'est le remplacement de Thibaut Courtois au Real.
Navas.
Parce que pour moi, je trouve qu'on met pas assez en lumière son implication dans les trois ligues des champions, dans les trois ligues des champions que le Real a gagné.
Je me demande, je suis d'accord avec toi, je me demande sur ce poste de gardien s'il se passera pas un truc d'ici la fin du mercato.
Parce que si Trapp, allons partir à Francfort. On va pas faire la saison avec le Polonais qui a été recruté pour être numéro 3 et Areola, sinon ce serait.
Marcin Bulka, 19 ans.
Ce serait un suicide, mais bon, c'est peut-être, le terme est un peu exagéré. Et aussi, sur le poste de latéral gauche, parce qu'on a Bernat, je trouve qu'il a été une très bonne recrue, et on a le boulet Kurzawa à gauche, et on a le boulet à droite, Thomas Meunier. Et pour moi, à gauche, il y avait peut-être
Boulet est quand même très sévère. Meunier, avant cette. Trois quarts de saison un peu bizarre l'année dernière. Au début, après, il s'est passé des choses. Il a été à moitié sanctionné, à moitié sorti de l'équipe. J'ai pas été.
Daniel, il paye l'amour que Thomas Tuchel porte à Thilo Kehrer.
Ouais,
Thomas Meunier.
Ce que j'allais dire. Le choix de Tuchel que j'ai pas vraiment accepté de privilégier Kehrer qui. Pas réellement montré qu'il était meilleur que Meunier. Si Meunier redevient titulaire, je pense que dans ce joueur-là, il y a quand même du potentiel. Et Bernat, ok.
C'est celui qui nous a le plus satisfait finalement la saison dernière, quasiment.
Et latéral gauche, ouais. Encore une fois, il faut également voir l'état du marché. Est-ce que t'as les moyens d'aller sortir un gros latéral gauche d'un club et qui sont les latéraux gauches, très forts en ce moment? Pareil, très compliqué aussi à analyser comme situation. Pas simple, mercato. En revanche,
Bernat,
pour ce poste-là.
Bon, et Meunier bon, dans l'optique où tu joues avec trois derrière.
C'est mieux.
Bernat,
à 4, c'est plus compliqué.
Plus compliqué.
Ouais. Et pour Meunier, pareil. Mais à la limite, le gardien, c'est peut-être le poste qui me laisse encore un peu sceptique.
On en a parlé hier. Claudio Bravo te fait deux matchs dans l'année au Community Shield avec.
Mais Bravo, quand il arrive à City, on pense tout, c'est un crack. Le mec, en un mois, il est grotesque. Les gens se foutent de sa gueule.
Liverpool se sépare de Mignolet hier.
Je suis comme troisième défenseur.
Adrian vient de signer. Adrian a 34 ans aussi. Donc effectivement, l'exemple Keylor Navas, un trentenaire avec un peu de bouteille, qui a joué une Coupe du Monde ou deux, puisque c'est le cas là, le costaricien Keylor Navas ou alors Claudio Bravo avec le Chili en 2010.
Sur ce plan-là. Tu viens de prendre, il y a quand même quelques réflexions. Tu viens de prendre Buffon et ça s'est mal passé. Donc je suppose que alors c'est pas le même âge
quand
non plus.
Quand tu prends Buffon, t'imagines pas qu'un soir de pluie va te relâcher un ballon dans les pieds de Lukaku.
J'imaginais que Buffon allait faire 6 à 8 ou 10 matchs. C'est le 4 Claudio Bravo, c'est le 4 d'Adrian. Il est là pour être un parrain, ambassadeur au départ.
Je répète, l'équipe au PSG, c'est du très haut niveau. Ce qui fait que ça ne se répercute pas en résultat. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement sur la qualité des joueurs. Je pense que ce qui manque depuis des années, c'est un petit peu autre chose. C'est ce qu'on lit dans les interviews quand certains joueurs parlent d'attitude individuelle, de difficulté d'avoir joué les uns avec les autres. Parce que parfois, quand on lit les interviews comme ça, il y a deux, trois choses qui sont lâchées. Cavani qui a finalement avoué deux ans après les deux, trois problèmes qu'il a eu avec Neymar au début, qui était le joueur, l'autre jour c'est Draxler, qui disait effectivement les égos des trois de devant sont pas toujours difficiles à gérer quand on est un autre joueur offensif de l'équipe. je pense que c'est plus là-dedans qu'il faut trouver la source d'un progrès pour le Paris Saint-Germain. Si progrès, il doit y avoir. Et le travail viendra de la direction sportive, de l'entraîneur et des formules qu'il pourra trouver. On a Mbappé qui a sa sortie au trophée du syndicat. Deux mois après, bon, ben, je m'excuse, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Bon, ben voilà. C'est peut-être plus là-dedans, moi, que dans la qualité des joueurs.
Et dans la capacité aussi à arriver en forme, au bon endroit, au bon moment.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est de la préparation, c'est conditionnement de l'équipe, comment t'évolues collectivement.
Plus d'humilité, la clé pour le PSG dans cette saison 2019-2020 qui débute ce dimanche à domicile, dimanche 21h, face à Nîmes. Voilà pour notre page Paris Saint-Germain. Dans un instant, un autre club qui était le dauphin du Paris Saint-Germain, voire même qu'il devançait pendant pas mal d'années. À quoi tu joues, l'AS Monaco ? Quel est ton projet ? Paris. C'est ce que je disais. C'était pas assez clair.
Il a dit pendant pas mal d'années.
Non, pas mal d'années le dauphin et qu'il l'a même une année devancé. Mmh. Ah, il veille au grain, Daniel Riolo, c'est ça, hein, papa. C'est comme ça. À tout de suite, c'est l'after sur RMC.
RMC. L'afterfoot, Thomas Desson.
Oui, avec Ludovic Obraniak, avec Daniel Riolo. C'est une émission en bimédia à la radio depuis, on était en train de compter avec Daniel, une douzaine d'années. Et vous pouvez nous regarder également sur RMC Sport News. Une question rapide, messieurs, comme ça, un oui ou un non. Ludovic Obraniak, AS Monaco, la fin de l'année, podium ou pas podium? Oui ou non?
Pas podium.
Daniel?
Je sais pas.
Je sais pas, oui ou non, ça. Ne se prononce pas, ça marche pas.
Si, ça marche.
Podium en 2014, l'année de la remontée.
Moi, je suis concentré sur un
podium
truc,
de 2014 à 2018. Oussem est là en embuscade. Et bien, Oussem, puisqu'il est là. Podium ou pas podium, Oussem Loussaïef?
Je dirais non, pas podium.
Voilà, 17e l'an dernier. Messieurs, il y a eu 8 recrues hivernales. Est-ce que ça peut être comme la SSE à l'hiver 2018, une vendange au bon sens du terme tardive?
Voilà.
C'est capillotracté, ce que je vais chercher. Tottenham également avait fait ça.
Le truc, le truc, c'est avec Monaco, t'es obligé de l'attendre la fin août, quoi. Tu sais pas ce qui peut se passer. T'as l'impression que t'as 3 mecs qui peuvent se barrer, 3 qui peuvent arriver. En fait, la vraie difficulté de Monaco, c'est tu sais même pas à quoi le 11 peut ressembler. Je vois, tu sais, dans les journaux, t'as toujours les petits dessins des 11 mecs là. On le sait tous que ces petits dessins là, entre ce qui est mis début août et ce qu'il y a en novembre ou en février, si tu les reprends, mais il y a très peu de gens qui vont rechercher les vieux fameux petits dessins. Tu regardes, tu dis ah ouais putain, ils avaient mis ça comme ça. Parce que tu sais pas, et encore plus à Monaco. À Monaco, alors là, on t'annonce que là, le milieu de terrain sera à deux avec Fabregas, Golovin. Dans tous les petits schémas que je vois, ça paraît pas tellement.
Je fais l'ingénu, messieurs, mais est-ce que le niveau footballistique intrinsèquement à Monaco, c'est pas le plus fort du championnat?
Bah pourquoi?
Bah Gelson Martins, il a tout pour devenir un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Ronny sur le côté, ça peut être le Nicolas Pepe de l'année.
Ouais, ok. Ronny Lopez, il reste ou pas?
Ronny Lopez peut s'en aller. C'était la vraie recrue à l'hiver, voilà. Effectivement, puisqu'il était de retour de blessure.
Après, Fabregas, il est dans quel état? Golovin.
Non, mais c'est pour ça que quand tu regardes les noms, c'est rutilant.
On a vu qu'effectivement, c'est un très bon joueur de foot. Falcao, il étudie des offres. Il a pas envie de rester, il veut se barrer. Ils vont jouer au cas avec l'attaquant qui a 19 ans.
Vinicius, qui était un bon suppléant, pareil.
Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pas certitude en tout cas, mais le sentiment à Monaco que le podium limite ça va tomber tout seul, quoi. Et beaucoup de gens semblent considérer, franchement,
Daniel Botton touche surtout une autre façon de voir les choses. Jardim 2.0, est-ce que c'est pas casse-gueule un deuxième opus? Les deuxièmes films, c'est toujours, enfin je sais pas, Beverly Hills 2 c'était pas mal, mais Mourinho à Chelsea, c'est bien la première fois, mais la deuxième de deuxième opus deux qui marche bien. Zizou, ça va être dur le deuxième opus.
Regarde le Parrain 2 et
ah t'es dans les films là, du coup
mieux que le 1. Le Retour vers le futur 2, c'est moins bien que le 1, mais franchement c'est bien.
Non, il y a Jaws, Les Dents de la Mer, c'est une bouse sans nom.
Rocky 2, c'est bien. Rocky 2, c'est très bien.
Rocky 2.
Ah, toi, tu vas me chercher Rocky 2, Les Dents de la Mer 2. Oui, c'est pourri. T'es pourri, t'en as.
Rambo 2.
Comment vous bottez en touche? Comment vous bottez en touche? Pourquoi Henry Onyekuru?
Il y a de tout, quoi.
Le Nigérian. Remplaçons certes avec Guernot Rohr.
Tu sais quoi? Le truc à Monaco, c'est que le problème, faut voir le problème en deux parties. Que ça, sur le plan offensif, t'as toujours eu des joueurs à même de pouvoir faire des choses intéressantes, même sur cette partie de saison où ils finissent 17e. C'est-à-dire que t'avais quand même Fabregas, Golovin était déjà là. Donc t'avais Gelson Martins qui était là, Falcao, Ronny Lopez, Vinicius, et sûrement j'en oublie d'autres. Le problème à Monaco, il est surtout sur le plan défensif. depuis un long moment maintenant. C'est-à-dire que Glick Jemerson, ça fait plus l'affaire. Sidibé, ça fait un moment qu'il n'arrive pas à revenir Sidibé va s'en aller. Donc ça, déjà, c'est
Hashtag teasing Mercato dans un instant avec Oussem Loussaïef.
Je ne plante pas ces trucs là.
Je plante rien du tout. Je lui laisse.
Sidibé prêté comme un caramel à quoi Everton. Et oui.
Bon, t'as réglé le problème du gardien. Ça déjà, c'est une bonne chose. Benjamin Lecomte, au moins ça c'est fait. Mais c'est vrai que moi, c'est la défense centrale qui m'inquiète. Alors après, il reste du temps, hein, l'AS Monaco, pour pouvoir se positionner. Mais plus les jours passent,
ils ont tellement de joueurs, tu sais même plus qui a dans
aussi. C'est que
ils vont être bons aux chiffres et aux lettres, Monaco, avec Lecomte est bon.
Ils sont surtout un peu échaudés de tous ces achats qu'ils ont pu faire.
J'avais oublié qu'ici c'était de la haute voltige.
Sors le blé, toi, au lieu de te faire de gueule. Allez, envoie l'oseille un peu. Là.
Pourquoi Monaco n'a aucune chance d'être dans le top 3? Parce que trop d'instabilité.
Je parle pas de chance ou d'aucune chance. La Ligue 1, elle est bien trop surprenante pour s'avancer de cette façon. C'est plutôt des déclarations à Monaco. C'est plutôt ces déclarations qui m'étonnent un peu. Ils les ont pas répétés 1000 fois non plus, mais j'ai l'impression que parfois c'était ouais, on a vraiment raté notre saison dernière et tout, mais là vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on est de nouveau à la lutte. Bon, c'est bien, de toute façon c'est normal qu'ils soient ambitieux, mais je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation ça, et notamment
ça va,
d'ici
ça va,
la fin
ça va
août,
dépendre
ça peut
pour moi
beaucoup.
Je te dis pas podium dans l'état actuel des choses. Maintenant avec l'arrivée de celui que Oussem va
citer tout à l'heure.
Vas-y, enchaîne, on en peut plus là.
Et
ça
peut-être
fait une
si tu changes et peut-être si tu changes
allez, envoie un peu
de
là.
Défenseurs centraux. À ce moment-là, peut-être que je pourrais
David Bouss sur le hashtag RMC Live nous dit à vendre effectivement Subasic, Sidibé, Glick, Jemerson, Naldo, Fabregas, Bennacer, Raoulou, Doram, Chadli, Silla. Voilà, les allées et venues sont trop grandes.
Il va faire quoi? Il va
regarder pour l'instant, parce que Jardim ne le fait pas jouer depuis qu'il est revenu. Je pense pas qu'il va continuer. Ça va rester dans ce sens-là, il va pas jouer.
En même temps, quand t'es à Monaco, hein, si tu joues pas au foot, ça va, t'es tranquille.
Messieurs, le hashtag 32-16 avec Damien qui dit.
En plus,
salut Damien, tu nous dis ça va être différent de la saison dernière. 17e la saison dernière.
À Monaco.
Sauvé sur le fil.
Ouais, tout à fait, ouais. Mauvaise saison, une de ratée. Maintenant, je vous trouve un petit peu, mais j'ai l'habitude avec Monaco, on n'hésite pas et on lésine pas à tailler dans le vif. Alors, il y a des choses auxquelles je suis complètement d'accord avec vous. Pullulance de contrat fait qu'à un moment donné, il fallait forcément trancher dans le vif et c'est ce qui est fait cette saison. Maintenant, de là à faire 20-30 départs en un mercato, je pense que c'est compliqué pour n'importe quel autre club. Donc effectivement, pour le moment, on a réussi à surtout via les prêts de je dirais être capable peut-être de faire jouer des jeunes et de voir ce que ça peut donner plus tard. S'il y en a un ou deux de bons et les récupérer, si toutefois la politique est celle-ci. C'est vrai que la lecture de la politique, elle est de plus en plus compliquée parce que le trading, on a vu les limites déjà depuis deux saisons. Hein. Ce qui est arrivé l'année dernière, effectivement, c'était limite la catastrophe industrielle, mais ça faisait déjà un ou deux ans qu'on, moi personnellement, je tirais la sonnette d'alarme et je l'ai déjà fait à votre antenne. Je pense que cette année, il y a une grosse différence et je crois que vous en parlez très mal ou très peu. C'est le départ de Vassiliev et l'arrivée de Petrov. Il y a quand même deux choses à bien distinguer. C'est que Vassiliev, il avait des pourcentages sur chaque transfert. Donc tout son intérêt était de réaliser ses transferts. Je pense pas que Petrov ait le même contrat et je pense pas que l'objectif du club ait été de lui demander les mêmes choses. Je connais pas trop le président. Effectivement, peut-être que Monaco, c'est un jouet pour lui. Mais je pense que ce qui est arrivé l'année dernière, ça lui a servi de leçon. Et on le voit dans le mercato.
Sauf qu'en même temps, Vassiliev, on peut pas dire qu'il n'ait pas réussi à Monaco, hein.
Le mercato, j'entends ici et là que ça taille parce que on recrute pas et en même temps on nous reprochait les autres années de trop recruter.
C'était un miracle
donc
permanent.
Donc à un moment donné, c'était assez rigolé.
On vous a pas reproché de recruter,
personne n'a dit ça. En fait.
De recruter de manière inintelligente, complètement déraisonnée. C'est-à-dire que vous avez acheté 15 joueurs d'un coup, des jeunes venant de droite, de gauche, de nationalités différentes. Ça avait ni queue ni tête. Je te dis qu'aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus, ça a l'air d'être beaucoup plus structuré. Après, faut pas enlever à Vassiliev. Il vous a remis sur le toit de l'Europe.
C'est avec Vassiliev que t'as eu tes plus belles années depuis 2004.
Oui, non, je critique pas le travail de Vassiliev. Je dis simplement que le travail de Vassiliev sur le nombre de départs, il y a forcément un lien avec le fait qu'il en touchait aussi. Maintenant, le travail de recrutement,
l'été catastrophique.
On voit bien d'ailleurs, les mercato à Monaco sont moins bons. Les recrutements sont moins bons. Et le travail de Lille, là j'entendais que on prend des jeunes de partout. Qu'est-ce qu'a fait Lille l'année dernière? Campos a refait exactement la même chose. Et jusqu'à preuve du contraire, ça leur a pas trop mal réussi l'année dernière, du moins. Ouais. Il y a deux ans, c'était autre chose.
On comprend ce que tu nous dis, Damien, sur le quantitatif et l'intéressement auparavant de Vadim Vassiliev. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci. On parle de Monaco, qui est un monument en péril. Il y en a un autre, avec 8 titres aussi, qui est un monument en péril. Là, c'est un petit peu plus facile.
Pas de blé, alors, là.
Dans pas longtemps.
Ah, c'est patience, tout, c'est plus facile d'identifier. Il aime bien être dans les starting blocks. Non, ça fait plusieurs heures qu'il est dans les starting blocks. Ah, il avait même ton Marty Fouette, le fameux Marty Fouette là-haut.
On m'a raconté un peu l'histoire.
Du Martinet.
J'ai croisé un fouet à la rédac.
Un Martinet, pas un fouet.
C'est la même chose pour moi, le
Martinet. C'est Marty Fouette quand même. C'est plus court.
Prends un coup de fouet, prends un coup de Martinet.
Et on m'a dit que c'était à toi.
Et tu l'utilises pas dans les mêmes soirées.
Effectivement. On demandera à Fred Hermel ce qu'il a fait pendant ses soirées estivales.
Non, ça fait longtemps
que j'ai abandonné le. Les soirées Martinet. Bah justement, puisque Fred vient, lui qui est très habitué aux soirées Martinet, et pourra t'en parler. C'est pas du tout le même effet. Bah, moi, j'ai honoré un pari perdu.
Ok.
C'est avec pour ce ça petit coup de Martinet.
Ouais, ils ont été gentils sur le coup de Martinet.
Et, comme ça, ils étaient, et du coup, on y prend goût.
Tu voulais qu'on la serre les fesses.
Oui.
Incroyable.
Cucu rouge, tout.
Ah ouais, d'accord.
Je pense qu'il y a une rancœur bien plus lointaine de la part de Ludo.
On m'avait prévenu sur les digressions de l'afterfoot, mais à ce point-là.
Non, chez Ludo, il y a
le match de l'after.
Il y a un truc entre les deux.
C'est parti, tu viens plus aux soirées.
Je l'avais pas vu depuis. Ouais, et quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai senti un malaise chez lui. Ouais. Il s'est levé pour me dire bonjour, mais il y avait, au lieu du bonjour, ça va, en sous-titre, il y avait sale con.
Mais en même temps, c'est normal.
Pourquoi tu m'as pas pris dans ton équipe? Je méritais d'être dans ton équipe. J'aurais aimé briller.
Il voulait gagner, en fait.
Au lieu de ça, j'ai été humilié.
Il voulait chercher la plus belle victoire de sa carrière.
Le pauvre.
Messieurs, FC Nantes, 14 coachs écumés en 12 ans. Qui veut encore bosser avec Kita Périfis? Eh bien, pas Gennaro Gattuso.
On sait qu'il a été contacté. Et apparemment, selon la presse italienne et selon aussi les informations qu'on a pu récolter, c'est l'entraîneur italien qui a refusé.
C'est dommage.
Le projet nantais.
Ça aurait pu être très drôle.
Ça aurait fait un feu d'artifice, en tout cas.
Ça pouvait durer 3 semaines.
Ça, c'est sûr. Et lui, donc, ne rejoindra pas le FC Nantes. Thomas, messieurs, il y a une piste très sérieuse. C'est Luis Fernandez, quelqu'un qu'on connaît très bien ici dans la maison. Alors on a
la piste est sérieuse, mais c'est pas sérieux.
Mais pourquoi ce ne serait pas sérieux?
Bah parce que j'ai l'impression que lui en actuel ou ancien consultant pour faire un tandem.
Nantes, c'est quelque chose
qui le touche.
Non, j'ai mal à mon foot comme Gilbert
cœur,
quand il voit.
Son cœur saigne quand il parle de Nantes.
Je l'ai senti tout à l'heure dans la rédac quand il voyait que je passais des coups de fil et on se tenait un peu au courant.
Je vais même te faire mieux. Ce soir, on devait parler de Nantes. Bon, Thomas s'est levé à 6h du mat pour préparer le dossier Nantes. Il voulait qu'on démarre l'émission avec Nantes, tu comprends?
Je vais vous faire un parallèle large. T'es en train de dire que d'avoir pris une grosse claque permet à Paris d'être un tout petit peu plus stable. Le fait d'avoir été sauvé, de sortir les fesses des ronces in extremis, 19e avec René Girard, tu fais une deuxième partie de saison avec Conceição au 3e, donc ça te place 7e, 19e avec Mikel Cardozo, tu te sauves avec Vaïd, et tu crois qu'en amenant des noms rutilants et en changeant de style tous les 6 mois, de faire de tes joueurs des girouettes,
cacahuètes,
ils sont paumés.
Qu'est-ce que tu fais qu'ils fassent? Tu vois bien aujourd'hui que la famille Kita a un vrai problème avec
elle a un problème en croyant que Gennaro Gattuso va venir à Nantes aujourd'hui.
Mais les mecs ils tentent, tu sais, Conceição quand il est arrivé, très franchement, on était étonné d'où il arrive à faire venir ce mec-là à Nantes. Ça a été un des bons moments des dernières années à Nantes. Moi, j'ai adoré ce moment-là à Nantes.
Il a réussi à faire venir des mecs surprenants.
Après, Ranieri est venu aussi. Donc, il a quand même réussi à faire venir des mecs. Mais après, la façon dont ça se passe, à chaque fois, tu dis bon, voilà, c'est bon, maintenant il a compris quand même. Non, tu vois, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est là. Non, c'est tout le temps pareil.
Non, mais le problème, c'est que Ranieri, au moment où il y a le champ des signes avec la squadra azzurra, c'est pareil. Nantes est troisième avec Ranieri à un moment. Il y a le champ des signes avec la squadra azzurra à partir du mois de février. Tu gagnes encore quelques petits matchs 1-0 grâce à Emilio Sala. Et après un contrôle chinois, mais un but fabuleux. Paix à son âme, on pense à lui. Mais ça ne suffit pas pour pérenniser.
Tu crois encore à la possibilité pour Kita de bien bosser avec un entraîneur?
Non, au-delà de ça, c'est pour ça que je disais ça. Coach Courbis a été en mesure d'aller dîner chez Fabien Mercadal 3 fois par semaine et ça s'est passé bon an mal an. Je ne crois pas à un tandem. Si Luis Fernandez est pisté aujourd'hui, c'est parce que Valdemar Kita a ses bureaux pas très loin de chez Luis.
Je vais te dire la solution. La solution, c'est qu'il m'appelle. Voilà. On se connaît bien. On a des origines communes, on se connaît.
Stéphane Ziani ou Akita. Mais tu feras attention parce que le jeudi.
Je sais comment l'apprivoiser. Ouais. Voilà, on se connaît bien. Je sais comment il fonctionne. Ouais. Donc président, si vous nous écoutez ce soir, on trouve un adjoint. J'ai pas encore les diplômes. Moi, je viens, je vais faire le boulot sans vous emmerder. Il y a pas de problème. Voilà. La solution est toute trouvée.
Tu penses que la solution Luis Fernandez, c'est pas une solution?
Et il est en train de te dire qu'il veut le poste, que tu l'emmerdes, toi.
Mais non, mais là, parlons.
C'est fou, t'es en train de lui faire foirer son plan.
Je sais pas si Louis.
On a une annonce là, on a une vraie annonce là. On a une candidature en direct.
Purée, quel moment que je viens de foutre en l'air.
Est-ce que Louis, on n'est pas dans les mêmes profils
Et si Louis te demande d'être son adjoint?
Ah bah oui, de suite.
En tout cas, Louis.
Parce que toi, tu sauras. Parce que toi, Kelekita, tu les connais.
Bah, je le connais un petit peu parce qu'on a fait des choses ensemble, notamment quand j'étais avec la sélection polonaise. On a été amené à se rencontrer plusieurs fois et c'est quelqu'un qui est voilà, faut apprendre à l'apprivoiser le président.
Et Kita. Tu penses que on peut l'apprivoiser parce que la vérité c'est que je pense que je l'ai rencontré 4-5 fois en interview ou quand j'allais faire les matchs. À chaque fois, je l'ai souvent dit là, j'ai pas pu m'empêcher de considérer qu'il savait de quoi il parlait, que c'était un vrai passionné. Il a tout le temps envie de bien faire.
Il faut pas l'exclure.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, à l'arrivée, putain, ça plante.
Quand j'étais à. C'est-à-dire que t'arrives dans un créneau où tu prends des entraîneurs de renom comme c'était. Les entraîneurs, ils te disent, tu mets pas le nez dans le sportif. Voilà. Nous, on arrive, on est là. Là, il y a le domaine de compétences. Mais lui, entraîneur, président.
Lui veut
avoir un peu le nez dans le sportif. Donc, avec un peu d'intelligence. Tu lui fais croire de temps en temps qu'il peut interférer, tu le prends par des discussions.
Donc toi, tu feras la diplomatie. Mais Louis, voilà, il faut être un peu plus diplomate.
Oui, mais je voyais à Auxerre. À Auxerre, quand t'arrives à Auxerre, t'es entraîneur d'Auxerre. Si t'acceptes pas d'être avec Giroud, mais c'est mort dans l'œuf. Tu vois, à un moment donné, il faut aussi composer avec les gens qui sont là.
C'est pour ça que je dis à Oussem, la deuxième strat est difficile. Ziani a été deux fois dans la maison jaune, donc il a des envies avec les U19. Louis a besoin envie encore d'entraîner. Donc déjà là t'as un premier conflit. Et le jeudi t'as ton président qui a un diplôme d'entraîneur en Pologne, qui quand il gagne deux matchs se voit européen, quand il en perd deux pense qu'il est en Ligue 2 parce qu'il est passionné. Du coup t'as un tripartite. Mais et le jeudi après, le mec te dit avec ces mecs-là tu vas pas gagner. C'est ça qui est difficile.
Il faut quand même du respect pour un bonhomme qui met quand même sa fortune personnelle.
Mais tout ce qu'on dit est vrai. Il est agréable. On échange avec lui.
Au-delà des insultes que l'on peut entendre parfois, tu vois je peux comprendre que la Beaujoire c'est le stade emblématique, mythique. Et que t'as pas envie de bouger de la Beaujoire. Mais dans le foot moderne, t'as aussi besoin d'avoir des enceintes qui te permettent de récupérer de l'argent. Est-ce que vous avez vu les loges de la Beaujoire?
Non, mais le stade est désormais vétuste.
Il est vétuste, le stade. Donc, mais les supporters, si tu veux, j'ai l'impression que les gens vont contre lui pour aller contre lui. À un moment donné,
c'est la mère de Nantes qui a mis son veto.
Il y a effectivement ce conflit larvé depuis des années avec la principale association de supporters. L'ensemble du stade à Nantes est pas fondamentalement et toujours en opposition avec le président. Après, il y a un constat, c'est que la gestion semble toujours chaotique, toujours problématique. Même si on a eu des bons moments, il y a eu le bon moment Conceição, le bon moment Ranieri, il y a eu des noms qui sont venus à Nantes et ça a permis de refaire parler du club.
Je pense qu'il y a aussi au niveau de la structure familiale. C'est-à-dire que t'as le
fils.
Tu vois entre le certains choix d'entraîneur, t'y vois parfois l'influence du fils et parfois la reprise de pouvoir du père. Tu vois, je pense que Cardozo, c'est un choix du fils, clairement. Et je pense que refaire venir Vahid, parce que Cardozo, il avait laissé la main à son fils Franck, qui sûrement avait une vision un peu plus moderne des choses. Tu vois, tu reviens dans quelque chose de plus conservateur avec Vahid, avec un peu plus de certitude pour lui. Donc c'est aussi ça, c'est de savoir...
Aujourd'hui, c'est le fils qui a pris la parole pour affirmer que c'était Collé qui restait en intérim. Ouais. Et il dit, il peut rester un match, deux matchs, voire même deux mois, mais on cherche quand même un entraîneur. Alors est-ce que tu penses que
On rappelle Oussem, troisième expérience d'entraîneur par intérim, après Hervé Renard, après Fred Antonetti, au LOSC, c'était 6 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Donc c'est le troisième passage en tant qu'intérimaire.
Ah, parce que c'est
dommage parce que Vahid, il était habité de bonnes intentions. Il avait très bien fini la saison.
Il y avait de l'affect aussi. Il y avait de l'affect
et
aussi.
Il est affilié au FC Nantes quand même de manière assez intime.
Après, franchement, Ludo,
c'est dommage.
J'approuve ta candidature.
Non, mais c'était pour blaguer,
entre, imagine, tu es l'adjoint de Luis Fernandez qui devient entraîneur du FC Nantes. Si entre Luis Fernandez et Valdemar Quita,
il n'y a pas quelqu'un pour faire
tu
la.
Tu deviens pas taré, toi, Ludovic Bragnac. Là, je dis, bravo, monsieur. Là, je dis, si tu reviens avec toute ta tête d'une telle expérience, là.
Non, mais on en est là. C'est-à-dire, quand on voit Vahid et Quita, on se dit, ça tiendra si 90 jours. Ça a tenu 10 mois, 9 mois.
Mon propos,
c'est que ça peut coller, visiblement.
Tu peux pas arriver à. Comme ça. Alors après, il y a peut-être une personne parce qu'elle, tu vois, je vais prendre l'exemple de Lyon, mais c'est aussi un contre-exemple parce que le président vient et donne les clés du camion à Juninho, mais qu'il le considère comme son fils. Donc tu vois, avant ça, empêcher le président Aulas de mettre son nez dans le sportif et tout ce qui va avec, difficile. Et c'est pareil pour Valdemar Quita, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il met son argent, il veut être au sein de la structure, il veut avoir son mot à dire.
Tu me rappelles quelque chose, Ludo, demain à 18h dans le RMC Football Show, l'invité sera Jean-Michel Aulas. On a grillé quelques billes à Oussem Loussaïef pour ce Mercato Show.
Je pensais que tu allais dire l'invité, c'est Quita qui annonce le nouvel entraîneur.
Non, il nous parle de Jean-Michel Aulas. Pour l'instant, c'est Patrick Collot et on aura éventuellement un tandem. On reparle
sinon,
de ce
Kita,
Mercato.
Pour ses affaires privées, dans tout, il peut résoudre tes petits problèmes. Là,
oui, allongement de pénis, mais écoute, tout va bien. J'ai des...
C'est sympa vos conversations ici. C'est très sympa.
Le problème, c'est qu'il allait me faire enchaîner sur une grosse bêtise. J'allais dire j'ai des fesses de black et une quéquette de chinois. Mais je ne le dirai pas. Ah si, ça y est, c'est fait. C'est l'after, c'est RMC. À tout de suite.
RMC. L'after foot, Thomas Desson.
On est ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, Ludovic Obraniak et on est à.
Je devrais retirer immédiatement ta phrase avant pour éviter les emmerdes.
Oui,
effectivement,
non, je suis confus, effectivement. Ouais, Monsieur Quita, non, mais on va expliquer. Monsieur Quita, effectivement, un de ses business florissants, ça a été la cataracte. Ensuite, ça a été le rallongement de pénis. Tu as fait une blague par rapport à ça et j'ai voulu surenchérir. Ouais. C'était pas très malin. Par contre, on a des choses extrêmement judicieuses. Ça fait marrer. J'ai l'impression qu'il a fait presse.
Tu t'es fait avoir.
Bon, il a raison. Écoute, le rallongement de pénis, Monsieur Quita a quand même dit, ça c'est nécessaire à pas mal d'hommes. Voilà. Il est lui aussi, il est dans la terracotta.
Ça rend plus sûr de nous tous quand on a un bon sexe.
Voilà. La vraie phrase, c'est celle-là. Je sais pas, les citations, attention.
Ça donne plus de confiance.
Et si, la raison pour laquelle il a réussi à tenir Nantes aussi, c'est parce qu'il a fait quand même des sous avec l'acide hyaluronique et la cataracte. Si Nantes est encore un président.
Bon, le blé, là, le mercato.
Voilà, le blé, puisqu'on parle de blé. Où c'est le CF ? C'est le mercato show. Jingle, messieurs.
Il a rien de tout.
Il a rien de
tout. Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, laisse tomber. Chez lui, c'est 30 000. C'est un con.
Il n'y a rien en dessous de 20 millions.
Non, mais attends, tu mets la pression pour rien, Daniel. On va commencer avec une page Montpellier-Rennes. Bon, une grosse page Montpellier. Il y a de l'info. On commence. Ruben Aguilar, qui va rejoindre Monaco. Il était aujourd'hui à Monaco, donc 10 millions d'euros. On imaginait que ça se joue un peu plus de 10 millions d'euros. Non, finalement,
même si c'est
finalement
que 10
millions d'euros, il rejoint. Contrat de 5 ans.
M'intéresse. Très beaucoup.
Très beaucoup pour Monaco.
À 10 millions, oui, très beaucoup.
Qui pour le remplacer?
Pour le remplacer, Arnaud Souquet, une ancienne connaissance de la Ligue 1, l'ancien Niçois qui était du côté de la Gantoise et
de Lille.
Et de Lille aussi. Indemnité de transfert, un peu moins de 3 millions d'euros. C'est un beau coup pour les Montpellierens ou pas?
Et il est né en février 92, et février 92, c'est le début de la Première Ligue. Et la Première Ligue, je fais des digressions, c'est vendredi, Liverpool-Norwich sur MC Sport.
Ah ouais, là, effectivement. Là.
Et si, février 92, non mais ça me...
Je sais que toi, tu pourrais faire des bandes annonces. Des bandes annonces de films.
Ouais, bah, ça dépend quel film, hein, parce que depuis qu'on t'a parlé de Martinet, je te trouve très énervé.
Ouais, tu pourrais. Alors, on disait quoi?
Donc, moins de 3 millions d'euros pour Souquet. C'est une bonne affaire pour Montpellier.
J'avais été pas inintéressant du côté de Nice.
Mais qui est la grande histoire, Arnaud Souquet.
Il encore. Oui, c'est ça.
Ah, d'accord.
Non, écoute,
c'est ça. Je l'avais oublié ce joueur, en fait.
C'est un garçon brillantissime, je sais pas, c'est.
Qui avait fait une belle saison avec Nice avant de partir.
C'est un Christophe Jallet en pleine forme plus jeune.
Très bon joueur.
Ah ouais, là, quand même, là. D'accord, ok.
Non
ouais. Si, si,
ouais,
si.
Bah
si
écoute.
Tu veux,
ouais. Christophe Jallet.
S'il ne se prononce pas, c'est qu'il est d'accord. Il
était au-dessus, international, a joué la Ligue des Champions. Tu vas un peu loin, mais pourquoi pas.
Bon, un bon Christophe Jallet.
Sens-toi libre.
Non, mais je pense à Nice, etc. L'arrivée du nouveau gardien de but, on fait quoi du coup?
Ouais, bah, c'est le chantier depuis le départ de Lecomte du côté de Monaco. Alors, il y a un nom qui ressort. Et tout à l'heure, le président Nicolas nous l'a confirmé. L'agent de ce joueur, c'est le gardien de but de l'AS Rome, le Suédois Robin Olsen. L'agent est attendu demain pour terminer les négociations. On parle d'un prêt de la Roma à Montpellier. En tout cas, la piste a été confirmée et Montpellier est très intéressé.
Donc deuxième gardien de la Roma ou troisième?
Deuxième gardien. Il était premier gardien et ouais. Il est devenu deuxième puisque Paul Lopez est venu du Betis Séville.
On le rappelle, Olsen. Je vous fais un aveu, mais à la boule, fin juin, c'était le gros chantier de Michel Derzakarian. Et il voulait du Samba ou du Mendy. Il joue au golf. Voilà. Il était invité à un tournoi de golf. On en a discuté. Et c'était son gros chantier. Ça veut dire que six semaines plus tard, on va réussir à avoir les pistes qu'il souhaitait.
Blanc ne veut pas être loin, non? Tournoi de golf.
Mais t'arrêtes un peu.
Non, mais à la table, moi, j'étais heureux. Baron Kelly, Amis, tous les anciens, et on discutait de ça.
Quel club, Laurent Blanc,
alors? Alors, j'ai discuté avec un agent qui me parlait de la sélection marocaine. C'était très chaud fin juillet.
Ah, ouais.
Et alors, lui, apparemment, il aurait refusé la sélection saoudienne avant Hervé Renard.
Ah, ouais.
Et il discutait avec la sélection marocaine. Problème de timing. Coach Vaïd qui se libère.
C'est beau golf au Maroc, hein.
Coach Vaïd qui se libère, et pour l'instant dans la shortlist du Maroc, alors les dirigeants ont rencontré.
Même Vaïd passe devant Blanc, que t'es quand même l'entraîneur que la terre entière s'arrachait il y a 3 ans.
C'est pas une priorité pour lui d'aller lui veut entraîner en club.
C'est Vaïd.
Je pense qu'il va entraîner en club. Il va retrouver un club, Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Ah, mais quel genre de club là? Parce que ça fait
le temps passe quand même. Au fur et à mesure, ouais, les choix, ça me nuise un peu.
Le temps passe. Oui. Ouais.
Ah bah, avant de parler de Marseille, restons sur Montpellier avec Pierre, supporter. Salut Pierre.
Salut tout le monde.
Salut Pierre.
Salut Pierre.
Est-ce que t'as peur? Est-ce que tu te sens dépecé?
Dépecé, non, parce que pas du tout, parce qu'on a su remplacer justement les joueurs qui sont partis, à part le gardien qui reste le sujet brûlant, mais sinon voilà, on a fait des super recrues avec Ferry et Savanier. Ferry là, il fait une super prépa, il est vachement bien. Bon, malheureusement Savanier s'est blessé, mais bon, on a bon espoir quand même qu'il revienne d'ici quelques semaines. Et puis là, on parle de Souquet pour remplacer Aguilar, donc je pense que grosso modo, c'est à peu près kiff-kiff.
Ah, mais Souk, c'est chez nous, pardon.
Yeah. Arnaud Souquet, qui était à Nice il y a quelques temps.
Et puis aujourd'hui, voilà, aussi, on a appris la prolongation de Florent Mollet, milieu de terrain, qui a fait une très belle saison la saison dernière avec Montpellier, et qui a été prolongé. Donc.
C'est ça, Mollet aussi qui s'est blessé. Bon, là, c'est un petit peu la poisse au milieu. Mais bon, il y a quand même le Talek, il y a Ferry. Voilà, après, il y a Paul Lannes qui veut partir, mais qui est toujours là. Donc je pense que ça va le faire. Il reste que le gardien là où il faut vraiment qu'on trouve un bon gardien, parce que le jeune Berthaud, c'est un peu léger. Et voilà, c'est un petit peu ce qui inquiète en ce moment les supporters. Mais bon, j'ai pas de doute qu'on va réussir à trouver ce qu'il faut, parce que Laurent Nicolin, il a fait quand même un gros mercato là. Il travaille bien et je suis assez confiant.
Rendez-vous décisif demain pour le gardien de but. On le disait, Robin Olsen, qui pourrait être prêté de la Roma à Montpellier.
Merci beaucoup, Pierre. On enchaîne avec Oussem Lousaïf.
On confirme.
Doucement, on monte crescendo, Daniel.
Ouais, vas-y.
Crescendo. Toi, l'italien.
Vous le savez désormais, mais gros ouf de soulagement, la visite médicale du grand attaquant à Marseille.
Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On avait peur pour ses genoux.
Ouais.
Tout s'est bien passé. Indemnité de transfert inférieure à ce qu'on imaginait. On parlait de 16 millions d'euros. Finalement, Jacques Henriot, tout à l'heure, en conférence de presse, a dit que ça se jouait autour de 14 millions d'euros.
Oh, ça va, dis donc.
2 millions d'euros, c'est pas mal.
J'ai l'impression qu'il l'a eu en ristourne.
C'est pas mal. Et c'est un contrat de 4 ans pour l'attaquant.
Il avait l'air heureux, Héro, à conférence de presse.
Bah, en même temps, quand tu présentes ton deuxième joueur alors que le championnat commence dans une semaine, t'es content.
Je pense qu'il était très satisfait de son PowerPoint.
Ah ouais, ouais, c'est
alors on en a beaucoup parlé de son PowerPoint à la rédaction.
Non mais c'est pas possible.
Et on reste sur du 1998.
Non mais quand t'es l'Olympique de Marseille, tu peux pas présenter un joueur de cette façon-là.
Ouais, là,
dans un petit bui-bui sans lumière.
J'ai l'impression qu'il ne va jamais y arriver. C'est incroyable.
Même pas sur en plein écran, tu vois, il est deux. Non mais c'est pas possible. T'as pas le droit.
Après Super Dario Kezako, Super Mario.
Mario Balotelli, qu'est-ce que va devenir Mario Balotelli? On en parle un peu partout dans tous les pays du monde. Il a son agent.
Et honnêtement, on s'en fout pas un peu.
Alors, quand je vais te donner la destination dans laquelle il est annoncé.
Flamengo.
Bah voilà, c'est ça. Il est annoncé au Brésil du côté du Flamengo. Flamengo qui fait un bon recrutement, qui a recruté Felipe Luis.
Au Brésil, Balotelli.
Alors, est-ce que tu imagines Balotelli au Brésil?
Au mois de février, ouais.
Quand tu l'auras rien trouvé, c'est ça?
Non, au moment du carnaval.
C'est ça le problème de Daniel. On peut pas discuter football.
Si, justement, là, je suis en train de te parler de.
Vraiment, tu le sens pas?
Je sais pas, moi, le championnat du Brésil. Enfin, c'est dire à quel point ce mec a complètement flingué sa carrière.
Vaut mieux finir à Flamengo qu'à Elias Véron.
Bien sûr, au moins,
prestige et...
au moins, c'est un club prestigieux. L'aventure. ça a quelque chose de plutôt sympathique de l'envisager là-bas. Mais enfin, voilà,
ça joue mieux le Brésil que les États-Unis. Et pourtant, quand Zlatan va au Galaxy, on dit génial. Et là, on dit quel flop.
Il aurait pu aller aux États-Unis, tiens. Il avait peut-être le profil.
Flamengo, moi je trouve que c'est, ça serait extraordinaire d'avoir eux, ils vont s'enflammer pour le personnage. Bon, le championnat brésilien, je suppose que offensivement tu défends peut-être un peu moins, donc il sera un peu plus dans ses caractéristiques de jeu. Et puis le personnage suffira
pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est comme le club américain au Mexique. Enfin, je veux dire, c'est une enseigne extraordinaire.
Flamengo, c'est exceptionnel.
Ils font un bon recrutement. Leur entraîneur, c'est Jorge Jesus, on le rappelle, ancien entraîneur du Benfica. Ils ont acheté Felipe Luis, le latéral de l'Atlético de Madrid. Ils font un recrutement assez sérieux.
Et ils vont affronter Dani Alves. Bon, ça, on t'a grillé la carte, mais redisons-le, si vous n'étiez pas avec nous il y a une vingtaine de minutes, Monaco va perdre un international français.
Djibril Sidibé va quitter Le Rocher puisque Aguilar arrive. Alors, il est prêté une saison avec
Aguilar,
une option d'achat.
Une défense à 4,
c'est moins bon,
si, si, ça tient. Moins bien, mais ça tient la route quand même.
Pour Sidibé, c'est un prêt d'une saison du côté d'Everton avec une option d'achat à 14 millions d'euros.
Okay. Vu ta défense l'année dernière, pas sûr qu'il passe pas à 5, hein.
Avec Henrik,
si t'as le profil de Aguilar et que tu trouves un arrière gauche qui a ces caractéristiques-là, peut-être c'est là pas inintéressant de passer à 5. D'autant que si t'imagines jouer avec Golovin, Fabregas au milieu, ça te laisse quand même une sécurité derrière.
On parle beaucoup des gardiens. Où va Brice Samba?
Alors Brice Samba qui descend avec Caen prend la direction de Nottingham Forest en D2 anglaise avec un entraîneur français, Sabri Lamouchi. Donc il va rejoindre Sabri Lamouchi. On parle d'une indemnité de transfert de 4 millions d'euros.
C'est la même qu'Edouard Mendy pour Rennes.
Exactement, 4 millions d'euros.
On est dans des sommes tout à fait raisonnables là pour des bons.
Alors
gardiens.
La question que tout le monde se pose quand on voit cette information, c'est est-ce que Montpellier n'aurait pas dû insister pour récupérer Brice Samba?
Alors moi, je t'avoue, je me la posais pas la question.
C'est vrai?
Non, tu as dit tout le monde se pose la question, mais
à la rédaction, bien sûr, entre entre les gens.
Vraiment, tout le monde s'est posé cette question.
Bah, il est libre.
Non, mais la rédaction, Daniel, il vient pas à la rédaction.
il est libre contre 4 millions d'euros.
Daniel, il sait pas faire contrôle alt supprime pour allumer un ordi.
La fin de saison, je te dis oui.
Si c'est le Brice Samba.
Samba des trois quarts du reste de la saison, c'est plus compliqué.
Mais toi, tu te poses pas ce genre de questions.
Et me dis pas que c'est tout quand même.
Non, là on va commencer à parler oseille là.
Ah ouais, parce que là.
On en parle depuis un moment. Je sais pas si c'est également son poids, 93, 94 kilos. Mais Virgil van Dijk n'est plus le défenseur le plus cher de l'histoire.
Et il est remplacé par Harry Maguire qui quitte Leicester pour Manchester City United, pardon. Défenseur central, montant du transfert 93 millions d'euros. Contrat de 6 ans pour l'international anglais.
C'est fou comment le foot a basculé sur le prix des gardiens et des défenseurs centraux. Là, c'est la rareté de trouver un défenseur central de très haut niveau. Les prix s'envolent, là, c'est du délire. Ça veut dire que c'est au-dessus de
Van Dijk, de Ligt, de Van Dijk, de Hernandez.
Manchester en avait besoin, et pour eux, ça représente pas grand-chose.
Ouais. C'est plus un serpent de mer, là, c'est un serpent d'océan. Que va faire Lukaku?
Alors, on parlait d'un échange entre lui et Dybala, entre la Juventus et Manchester.
C'est vrai qu'il s'entraîne à... J'ai vu qu'il s'entraînait à Anderlecht.
Non,
il y a des images.
Il s'entraîne pas avec. Ouais, il s'entraîne à part, quoi. Mais il s'entraîne pas avec l'effectif.
Je sais pas. Ouais, il avait le maillot de.
Non, il s'entraîne à part, mais il s'entraîne pas avec l'effectif. Non, il va pas signer Anderlecht.
Non, mais il va pas signer. Non, mais il s'entraîne. Non, il est quand même encore joueur du.
Rassure-nous. Il va pas. Il va pas signer à la Juve.
Il pourrait s'entraîner avec les jeunes de Manchester.
Il va ni signer à la Juve ni signer à Anderlecht. Alors, selon les dernières informations,
il y a l'Inter qui est dedans aussi.
Il pourrait atterrir à l'Inter puisque Antonio Conte aime beaucoup son profil. Ils ne sont pas croisés quand ils étaient à Chelsea.
Explique-moi un truc. Comment, quand t'es le club de Manchester United, t'es en train de vendre ton joueur et lui, il va s'entraîner dans une équipe chez lui, près de chez lui. Et si le joueur il se blesse, tu fais comment pour
peut-être qu'il le considère déjà parti.
Ouais, mais il est déjà parti. S'il est blessé, le transfert il est annulé. Mais c'est je comprends pas. Excusez-moi. Expliquez-moi parce que je crois.
Il y a éclaircissement possible sur ce dossier parce que ça me paraît très flou. Quoi.
Bah Antonio Conte apparemment insiste auprès de ses dirigeants pour le récupérer et voudrait faire de lui son numéro 9 la saison prochaine.
Encore, il faut qu'il sépare d'Icardi l'Inter.
C'est la valse un peu des.
Ouais, parce que c'est des trucs encore d'ici fin août, c'est bien.
Oussem, on te remercie. Je sais que tu as une info sur la Catalogne. On en parlera avec Fred Hermel dans un instant. On veut savoir, parce que nous, les Français, on part en Espagne en vacances. Mais où va Fred Hermel pendant ses vacances? C'est évidemment très, très important. Ça et plus encore, les drôles de dames. On parlera Espagne. On parlera Allemagne avec Paulo Breitner, avec des propos. inclassable du président de Schalke 04, des propos racistes, Malcolm également déjà sur le départ au Zénith. Tout ça est un peu dans le même mauvais sac. Et Julien Laurence à 4 jours du début de la Première Ligue. Ça et plus encore, c'est l'After sur RMC. Merci Oussem.
Merci à vous messieurs.
A tout de suite.
RMC, l'After Foot.